La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, comment les savants se racontent-ils ? Et comment cela racontent-ils ? Leur vie, la science qu'ils font, l'importance qu'ils lui donnent, leur trajectoire existentielle. On imagine volontiers que la science est construite seulement grâce aux travaux d'une succession de génies. Rayons de soleil inattendus et miraculeux, ils auraient éclairé les autres hommes grâce à leur intelligence ou à leur créativité, un peu à la manière d'envoyer du ciel. La science ne serait en somme que l'affaire exclusive de quelques individus intellectuellement déracinés, indifférents aux conditions matérielles de leur existence, que leur tempérament porterait très au-dessus des ancrages d'ordinaire. En vertu de cette conception, quand il est question de science, le local, le contingent et l'anecdotique sont en général priés de passer au second plan, d'aller même se faire voir ailleurs, comme si leur rôle ne pouvait être que mineur. Vous voulez un exemple ? Eh bien voici un. Einstein, Albert Einstein. En 1947, alors qu'il commençait avec beaucoup de réticence à écrire une sorte d'autobiographie intellectuelle, le père de la relativité fit cette remarque. L'essentiel dans l'existence d'un homme de mon espèce réside dans ce qu'il pense et comment il pense, non dans ce qu'il fait ou souffre. Fin de citation. Comme si, en matière de science, la subjectivité devait toujours passer au second plan. Ne pas se dire, ne pas s'entendre. À l'en croire, il serait en somme préférable de dissocier la pensée et la vie, autant que l'intelligible et le sensible. Il y aurait ici un esprit et là un corps, indépendants l'un de l'autre. L'esprit lévitant au-dessus du corps, sans connexion avec lui, le corps étant seul engagé dans l'empirie chaotique de l'existence. Mais avec tout le respect que nous devons à l'effrayant génie que fut Einstein, nous pourrions lui objecter que la cloison que les penseurs de tous ordres érigent contre les débordements de la vie ne semble pas si étanche que cela. Et qu'il s'agit là d'une bonne nouvelle en tout cas pour la transmission de la culture scientifique. Car c'est justement quand on n'énonce pas seulement les principes, les équations, les résultats, mais aussi les passions tenaces qui les ont voulues et les trajectoires existentielles qui les ont produits que la culture scientifique devient violemment attirante. En lisant ce que racontent les scientifiques, notamment les créateurs, les inventifs, les rebelles, on découvre leur boussole intérieure, les circonstances et les penchants personnels qui ont marqué leur trajectoire. On se rend compte que tout processus d'invention puise aussi dans l'imaginaire, s'appuie sur des métaphores, des analogies, qui constituent comme une poétique de la science. On découvre aussi avec grand plaisir que la courbure d'une intelligence, la pente d'un tempérament, la force d'une conviction peuvent porter une découverte, parfois même y conduire tout droit. Pour discuter de tout cela, c'est-à-dire de la façon dont les scientifiques racontent ce qu'ils font et ce qu'ils pensent de ce qu'ils font, j'ai invité deux femmes qui ont accepté mon invitation et je les en remercie, d'autant que grâce à elles, la conversation scientifique va se rapprocher de la parité pour ce qui est de ses participants. Béatrice Barbalato, vous êtes professeure à l'Université catholique de Louvain, vous êtes présidente de l'Observatoire de la mémoire écrite, orale, iconographique et du patrimoine autobiographique de l'association culturelle Mediapolis Europa. J'espère que je n'ai rien oublié. Et vous dirigez une revue qui s'appelle la revue Mémosine. Vous nous expliquerez ce qu'il y a dans cette revue. Quant à vous, Marie Berne, vous avez un doctorat en littérature. Vous avez été enseignante de littérature française et comparée dans des universités étrangères. Vous avez écrit un livre pas idiot du tout qui s'intitule « Éloge de l'idiotie ». Et tout récemment, vous avez publié des articles sur Jean Painlevé, qui fut un scientifique original et même iconoclaste, qu'on a un peu oublié aujourd'hui. Il était le fils de Paul Painlevé, oui, qui était un grand mathématicien, qui a été président du Conseil à 3 reprises, je crois. Alors un grand mathématicien qui est président du Conseil, on voit que les temps ont changé. Un Paul Painlevé, le père de Jean Painlevé, dont vous êtes la spécialiste, était un spécialiste, lui, des équations différentielles. Il y a, je crois, une équation transcendante qui porte son nom. Et en 1903, il avait démontré par une formule mathématique de la mécanique des fluides, en fait, que le vol était possible pour un avion Et je crois qu'il fut le premier passager des frères Wright lors d'un vol qu'ils ont effectué en 1908. Marie Berne, je propose que nous commencions avec vous. Vous êtes donc spécialiste de la vie et de l'œuvre de Jean Painlevé. Qui était-il ?
Jean Painlevé est né en 1902 et mort en 1989. Il était biologiste, mais aussi cinéaste et surréaliste.
Ça fait beaucoup.
Oui.
Et qu'est-ce qui vous intéresse dans son parcours et dans son travail ?
Il a fait à peu près 200 films scientifiques, des documentaires scientifiques, dont certains qui sont plutôt des documentaires de création, plus artistiques, mais qui continuent d'expliquer en fait le comportement de l'animal aquatique.
Et comment est-ce qu'il filmait sous l'eau ?
Alors justement, il était aussi inventeur.
Avant le commandant Cousteau ?
C'était avant le commandant Cousteau. Il était inventeur de plusieurs choses et il s'est associé avec un autre commandant très connu, le prieur, qui a inventé le scaphandre autonome, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus besoin des deux personnes qui tournent la roue pour pouvoir respirer. Il a inventé un caisson étanche pour filmer sous l'eau et les premières images sous l'eau, à ma connaissance, ont été filmées par Painlevé en 1934. Pour son film L'Hippocampe, qui donc explique que l'hippocampe mâle est celui qui accouche des œufs.
Il a démontré filmant la scène, si j'ose dire.
Et il a filmé la scène qu'il a attendue avec beaucoup de patience, en dormant sur un lit de camp à côté de la caméra, devant son aquarium, en train de filmer les hippocampes. Donc voilà ce qui me passionne.
C'est une sorte de découverte alors ?
Oui, ce sont des découvertes scientifiques. Et il est vraiment peut-être pas le pionnier, puisqu'il dit que c'est le docteur Commandant qui était le pionnier du cinéma scientifique. Mais en tout cas, il est définitivement celui qui a permis le développement du cinéma comme instrument de découverte scientifique.
Il a inventé le cinéma scientifique.
On va dire qu'il l'a développé, en tout cas qu'il l'a vraiment promu et aidé à se développer.
L'hippocampe ou cheval marin n'est, malgré son aspect étrange, qu'un vulgaire poisson dont la taille ne dépasse pas 15 cm sur nos côtes. Un système d'écusson revêt l'animal de nodosités pointues qui contribuent à son aspect médiéval. Sa partie supérieure évoque un cheval, sa partie inférieure une chenille. Seul de tous les vertébrés aquatiques, il se tient pour ainsi dire debout. Cette attitude verticale lui est familière et ne va pas sans lui donner une dignité un peu compassée. Il est le seul aussi à posséder, comme le caméléon, une queue prenante qui lui permet de s'enrouler aussi bien autour d'une algue qu'autour du cou d'un congénère et, pendu par la queue, il n'a pas, comme le singe, victime de la pesanteur, l'inconvénient de se trouver la tête en bas.
Parmi les films qui ont contribué à la connaissance du public et à ma fortune, il y a l'hippocampe. Tous les autres films m'ont coûté beaucoup d'argent. Il a fallu que j'emprunte, il a fallu que j'attende l'héritage de mon père pour payer mes dettes. Mais l'hippocampe a rapporté ce que j'avais investi, ce qui est extrêmement rare pour les courts-métrages. De toute façon, l'hippocampe était un animal extraordinaire, c'était un sujet en or, car on y voit un mâle qui accouche. Véritablement.
Alors vous avez dit qu'il était également surréaliste. Je crois savoir qu'il avait été ami d'André Breton, en effet.
Non, ennemi juré d'André Breton.
Il a été remarqué par Breton.
Mais ami d'Yvan Goll. En fait, il a écrit dans la première revue surréalisme, Painlevé, avec Reverdy, Yvan Goll, etc., qui, à l'inverse de Breton, pensait que, puisque Breton disait qu'en fait l'imaginaire naît du réel, alors que la bande de Yvan Goll dont faisait partie Painlevé pensait le contraire, que c'est du réel que naît l'imaginaire, l'observation réelle.
Donc ça doit changer un petit peu le rapport à la science.
Ça change totalement
selon
le rapport à la science.
C'est le point de vue qu'on adopte vis-à-vis du réel et de l'imaginaire.
Oui, et en fait, c'est la raison pour laquelle j'ai été vraiment fascinée par Painlevé. Donc, non seulement ces films sont merveilleux et n'ont pas pris une ride, parce que quand on les regarde aujourd'hui, c'est fantastique, mais sa vie est absolument passionnante.
Alors, par exemple, qu'est-ce qui a poussé ce fils de président du Conseil, de grand mathématicien, à devenir biologiste. Est-ce qu'il était vraiment scientifique? Est-ce qu'il se définissait comme scientifique ou plutôt comme artiste?
Alors, c'est toute une histoire, justement, pour Painlevé, qui voulait absolument, jusqu'à la fin de sa vie, se dire qu'il faisait des films scientifiques et non d'avant-garde artistique. Son père a voulu qu'il étudie les mathématiques, mais très tôt, Painlevé a été, le fils, donc Jean Painlevé, a été un cancre à l'école, finalement s'ennuyer en cours de mathématiques. Il se dirige quand même vers la médecine, et là, il se fâche avec son professeur qui traite méchamment un des patients hydrocéphales. Enfin, il s'insurge contre le traitement aux patients. Et il sèche les cours et il s'intéresse de plus en plus aux animaux et à la zoologie. Et c'est en fait le départ de la passion de sa vie.
C'est quelqu'un qui se fâche beaucoup, je crois.
Oui.
Il a beaucoup de brouille dans son existence. J'ai lu qu'il s'était opposé assez vertement à la création du Festival de Cannes, par exemple. Mm-hmm. Il pensait que c'était le lieu symbolique des petits arrangements et une lutte de chapelle permanente. Comment est-ce que son père a vu cette évolution?
Je crois que justement le fait d'être le fils de Paul Painlevé a été une chance et en même temps un problème. Et qu'il a passé sa vie un peu à se détacher de cette étiquette de fils d'eux. Son père, qui l'aimait beaucoup en fait, était absent, mais lui envoyait des lettres très touchantes, lui a laissé faire tout ce qu'il voulait. Donc quand Painlevé a commencé à manifester, a envoyé les bouvards du Conseil des ministres à la révolution surréaliste, le père disait qu'il préférait ça plutôt qu'il ait des idées de notaire.
Donc il se contentait de peu finalement, le père, pour ce qui est de la destinée du fils.
En fait, il préférait qu'il s'intéresse comme lui finalement à la science et à la technique, et c'est ce qu'il a fait, et qu'il comprenne l'interaction entre les deux. Il était très bienveillant par rapport à son fils.
8 tentacules, 2000 ventouses. Une pieuvre de 60 cm peut retenir 250 pieuvres. Poulpe. Animal horrifique. Près des côtes que la mer découvre, certaines années, on en trouve partout. Complètement molle, sans coquille, elle glisse à marée basse sur le sol avec ses tentacules successifs. Elle peut vivre hors de l'eau un certain temps. Les changements de teinte sont le reflet de ce qui l'entoure aussi bien que de ses émotions.
Mais vous, Marie Berne, qu'est-ce qui vous intéresse dans ce parcours? Comment est-ce que vous l'avez découvert et pourquoi vous a-t-il intéressé à ce point, ce Jean Painlevé que personne ne connaît aujourd'hui?
J'ai découvert le premier film de Jean Painlevé dans une exposition permanente à la Tate Moderne à Londres. J'ai vu l'Hippocampe et puis je suis restée, j'étais vraiment impressionnée par un autre film qui s'appelle Les Amours de la Pieuvre aussi. Et je crois que ce qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'il ne rentre dans aucune catégorie, qu'il était aussi bien ami avec Eisenstein, qu'il aidait finalement les surréalistes à sortir de prison grâce à l'influence de son père. Mais aussi qu'il était dans le comité mondial contre la guerre et le fascisme dans les années 30.
Alors que son père avait été ministre de la guerre.
Et justement, qui, je pense, a souffert que son père ait essayé de négocier la paix blanche. C'était en fait la paix avec l'Autriche avant la fin de la guerre, donc la Première Guerre mondiale. Et Painlevé a effectivement choisi Pétain pour la bataille de Verdun. Ce qui, je crois, a aussi marqué l'enfance et la scolarité de Painlevé, puisqu'on lui reprochait finalement à une époque où il fallait être patriotique, d'avoir un père qui était un lâche, qui demandait la paix. Et puis après, vraiment l'inverse, d'avoir un père qui avait finalement choisi un futur collaborateur pendant la Deuxième Guerre mondiale.
On sent que Jean Painlevé a voulu être un scientifique, un peu comme son père, peut-être pas dans la même discipline, mais il a tenté de le devenir. Et ma question, c'est quelles ont été les relations avec les scientifiques plus académiques?
Jean Painlevé était un scientifique, vraiment, on va dire à 100%. On va dire qu'il était 100% scientifique, 100% artiste. Il a fait une première communication à l'Académie des sciences en 1923. Et puis une deuxième en 1925. En 1923, il était le plus jeune scientifique à faire une présentation. Et puis toute sa vie, il a vraiment travaillé avec les scientifiques. Il était très important à la station biologique de Roscoff en Bretagne. Et c'est lui qui faisait tous les films scientifiques. Et il faisait souvent trois versions du même sujet sur un animal. Il y avait une version justement scientifique, sans montage, sans son, etc. Et puis une version, des versions plus, on va dire, de vulgarisation. Mais je crois que le rapport qu'il a eu avec les scientifiques, très tôt, depuis sa première communication qui a été vraiment discutée, et puis la deuxième où il a montré un film où là, carrément, les scientifiques ont claqué la porte en disant « le cinéma, c'est pas de la science », a toujours été effectivement difficile. Il parlait de la mauvaise foi des chercheurs, le fait de effectivement d'introduire le cinéma dans le milieu scientifique était très mal vu, et donc il était toujours effectivement un peu en décalage. Mais il avait quand même les gens qui le soutenaient, en tout cas dans le milieu scientifique.
Alors comme nous parlons aujourd'hui, Marie Berne, de la façon dont les scientifiques se racontent, est-ce qu'il a écrit des livres? Est-ce qu'il a écrit des articles? Comment est-ce qu'il s'est raconté lui-même? Comment est-ce qu'il a publié ses travaux, analysé ses échecs, ses réussites, ses querelles?
Alors, la directrice des archives Painlevé, Brigitte Berg, aujourd'hui a une phrase que j'aime beaucoup. Enfin, elle dit que Painlevé avait l'impatience de ceux dont les idées se bousculent. Il n'a pas arrêté d'écrire, il n'a pas arrêté de parler, il a fait des films, des courts-métrages, parce qu'il disait... il s'embêtait très vite, en fait. Il pouvait pas faire de longs-métrages. Donc tout était très rapide, etc. Mais il n'a pas arrêté. Donc la tâche, aujourd'hui, aux archives de Jean Painlevé, est absolument immense, parce qu'il y a des pages et des pages, des articles. Il a écrit une quantité d'articles incroyables. Il a même écrit des pièces de théâtre à la fin de sa vie. Il était ami avec Eisenstein. Il a des histoires, en fait, à chaque film, pour chaque moment de sa vie.
Béatrice Barbalato, vous connaissez Jean Painlevé?
Je ne suis pas dire d'être une experte de Painlevé, même si, en certain moment de ma vie, il y a 15 ans, j'ai dirigé un projet européen sur la science et le cinéma. Et donc, on a essayé aussi de construire une médiathèque à la Sapienza de Rome, ce qu'on a fait. Mais après, tous ces matériaux, je ne sais pas, la chose n'a pas évolué. Et selon moi, n'a pas évolué parce qu'on ne donne pas assez d'importance à ce genre de documentation. Et donc, à un certain moment, j'ai eu des rapports de travail avec l'ENEA, qui avait une médiathèque très importante.
L'ENEA, c'est
ENEA, Ente Nazionale Energia Ambiente, institution nationale sur l'énergie et l'environnement. Maintenant, l'ENEA n'est plus une institution en plein développement, même si a une station en préside au Pôle Nord. Donc, vraiment, ils étudient des problèmes liés à l'environnement, mais ils avaient aussi un petit coin vraiment où on a gardé des documents filmiques sur Fermi, par exemple. Les documents qu'on a sur Fermi viennent de l'ENEA.
Enrico Fermi.
Enrico Fermi, oui.
Documents, vous voulez dire des films?
Des films, des documents audiovisuels.
D'avant la guerre ou après la guerre aux États-Unis, quand il était à Chicago?
Si je me rappelle bien, avant la guerre. On trouve ça comme des citations, comme des séquences dans d'autres films qui aujourd'hui existent sur Fermi. Mais l'original, c'est de l'ENEA. Donc, vraiment un patrimoine que j'ai trouvé très important et explicatif sur la manière des scientifiques de produire à travers les images des explications et aussi de se raconter. Et le fait de se raconter, toujours on a eu des préjugés sur l'autobiographie. On l'a toujours et c'est tout à fait légitime. C'est-à-dire, quand on se raconte, on se raconte dans la vérité. Non, bien sûr, on se raconte selon l'éthos qu'on veut construire. Ou bien authentiquement vers soi-même, autant vers les autres. Donc on a des autobiographies plus ou moins véridiques. Et donc, du moment que depuis longtemps, depuis une quinzaine d'années, on dédie des études aux autobiographies en tant qu'éthos, on a dédié des colloques, on organise des colloques annuels sur les autobiographies. Et on a eu des sujets différents. Mais en 2013 et 2014, on a organisé des colloques sur les autobiographies et biographies des scientifiques pour voir de quelle manière les scientifiques conduisent une réflexion sur eux-mêmes. Et ça, je trouve, c'est très, très important.
Des scientifiques de toutes les époques, de tous les siècles.
Oui, voilà, de toutes les époques, de tous les...
Alors ça commence avec qui, Léonard de Vinci ou, ou avant?
Bon, le problème n'est pas essayer d'historiciser toutes les autobiographies, mais d'avoir l'idée, un examen, une analyse de ce que l'autobiographie raconte.
Et est-ce qu'à chaque fois c'est différent ou est-ce qu'il y a une façon de penser de façon à peu près homogène le genre autobiographique des savants? Est-ce qu'il y a des codes? Est-ce qu'il y a des règles implicites ou explicites? Ou est-ce que chacun fait comme il veut?
Disons que qui étudie une autobiographie d'un scientifique a quand même construit sa méthode. Ça, c'est évident.
Non, mais je parle de celui qui écrit. Est-ce que les scientifiques ont une façon d'écrire qui leur est propre? Ou est-ce qu'ils écrivent leur biographie comme le font les hommes politiques ou les autres?
Oui, l'histoire nous aide dans ce sens-là, parce que si on pense aux grands hommes de la Renaissance, comme Leonardo, bien sûr,
Leonardo da Vinci,
Leonardo da Vinci, Leonardo de Vinci, il avait un grand complexe de n'être pas un homme de lettres, parce qu'il ne connaissait pas les langues antiques. Et donc, il y avait une très grande compétition à l'époque, donc il voulait à tout prix travailler pour Ludovico il Moro Sforza à Milan. Et il s'est justifié. Je vais lire ce qu'il dit. C'est heureusement traduit déjà en français. Donc,
merci beaucoup.
Donc ça donne quelques avantages. Je sais bien que pour n'être pas un homme de lettres, quelque prétentieux pensera raisonnablement de me pouvoir blâmer en affirmant que je suis un homme sans lettres, homo senza lettere, gens stupides. Ils ne savent pas que je pourrais, ainsi que Marius répondit au patricien romain, oui, je pourrais moi répliquer en disant que cela même qui sépare des fatigues d'autrui ne me dédaigne pas accorder les miennes. Ils ne savent pas que mes résultats sont tirés de l'expérience et non de la parole d'autrui. Donc, Leonardo revendique une certaine supériorité de la science parce qu'un scientifique observe, enregistre, il ne dit jamais normalement, je vais dire, quelque chose que autres gens ont dit et ne le dit pas de la même manière.
C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de lire les livres déjà écrits pour faire de la science.
Voilà, voilà. Donc, il dit une chose qu'aujourd'hui
est
monnaie courante. Et on copie, on copie, on copie, on copie. Et Leonardo dit, je ne peux pas copier. Je ne pourrai jamais copier comme font les gens des lettres. Et bien sûr, il est sous la défensive. Ça, c'est sûr et certain. Alors, je peux dire qu'on vit à la Renaissance. Moi, je ne suis pas une vraie experte de la Renaissance, mais quand même, en faisant ce travail du colloque et de la rédaction de la revue Mémosine...
C'est la revue que vous dirigez, Mémosine. Qu'est-ce qu'il y a dans cette revue? C'est une revue où, justement, il y a des études de textes autobiographiques de savants.
Oui, oui.
Des biographies.
Non, de toutes les biographies, on est parti plutôt des autobiographies des gens ordinaires. Et je peux dire lancé cette idée des scientifiques parce que en restant dans l'affirmation de Barthes de la distinction entre écrivain et écrivant, je pense que les scientifiques sont des écrivains. Je ne sais pas si mon accent français fonctionne.
Très bien, écrivant plutôt qu'écrivain.
Voilà.
C'est-à-dire
quelqu'un qui écrit. pas quelqu'un qui essaye de trouver un style...
ou un langage, ou un nouveau langage.
Ou un nouveau langage, donc c'est ça la différence.
Ils utilisent le langage pour dire leurs travaux et leur vie,
voilà,
donc, sans avoir d'ambition purement littéraire.
Voilà, c'est une division, c'est une...
Mais est-ce qu'il n'y a pas des scientifiques qui ont été de vrais écrivains? Du côté français, je pense à Jean Perrin, qui a écrit un livre qui s'appelle « Les atomes », qui est magnifiquement écrit.
Je réponds avec Galileo Galilei, parce qu'il a été un écrivain, dans les vrais sens du mot. Et il fait une affirmation qu'au début ne prend pas toute l'ampleur qu'il doit prendre. Il dit dans l'essayeur qu'il a écrit en 1632, Il Saggiatore.
Ah, c'est le livre dans lequel il dit que le langage de la nature est écrit grâce à des symboles mathématiques ou en langue.
Voilà. La nature est écrite en langage. Ouais, il faut décoder les langages.
Sans lequel il est humainement impossible d'en comprendre un seul mot.
Voilà. Donc il fait une affirmation qui est vraiment valable à nos jours. Si vous ne comprenez pas les langages, si vous ne comprenez pas les codes, vous ne pouvez pas communiquer, ni découvrir, ni faire aucune affirmation. Je vais dire aussi que Heidegger, il a fait dans la lettre, il a dit une chose qui se rassemble assez dans un autre cadre, dans la lettre sur l'humanisme de 1946, il dit que le langage est la maison des lettres. Donc seulement à travers le langage, l'être peut être là.
Design.
Il peut se manifester. Il y a eu, pour répondre, Étienne Klein, à votre question sur existe-t-il des scientifiques qui sont des écrivains? Oui, bien sûr. Je me rappelle Galilée comme un exemple absolument...
C'est un exemple magnifique, mais qu'est-ce qui pousse un scientifique à écrire? Parce que finalement, il pourrait se contenter de ses travaux scientifiques en imaginant que c'est cela qui doit rester et que la vie est un parasite de son œuvre. Donc qu'est-ce qui pousse un scientifique à raconter sa biographie?
Bonne question.
Parce qu'il y en a beaucoup qui n'écrivent pas leur biographie.
Oui.
Donc qu'est-ce qu'on arrive à comprendre les motivations de ceux qui le font?
Là, je me suis... sans pouvoir donner une réponse sûre et certaine, je me suis interrogée si les scientifiques se sentent supérieurs ou inférieurs. Et alors, il y a une phrase, un dicton qu'on dit en Italie, que ça l'a inventé un mathématicien, bien sûr. Les mathématiciens parlent avec Dieu, les physiciens parlent avec les mathématiciens, et les autres parlent entre eux. Donc, ça, on l'entend dire.
C'est une classification des scientifiques.
Oui, donc il y a des scientifiques qui se sentent supérieurs, mais il y a des scientifiques qui souffrent, je crois, de ne pas pouvoir parler comme tout le monde, parce que leur langage n'est pas le langage de tout le monde. Donc, essayer d'avoir une communication, je pense que c'est important pour eux. Et peut-être aussi parce qu'au début, comme Nietzsche affirme tout le temps dans toutes ses œuvres, l'homme n'avait pas n'était pas aussi divisé entre la rationalité et l'être dionysiaque.
Voilà.
Et donc je pense qu'il y a toujours une aspiration à une unité originaire qui est la fantaisie, la rationalité et le langage comme moyen d'expression.
Mais ça veut dire que le fait de se taire sur sa propre vie est un moyen de garantir davantage d'objectivité que se raconter serait entrer dans une zone qui compromet la rationalité scientifique, qui l'abîme, qui la contamine.
Ça c'est vrai, mais si on pense par exemple à Hardy, à l'apologie d'un mathématicien, Hardy c'est le mathématicien de Cambridge qui a écrit cette œuvre autobiographique où essaie d'expliquer, comme il dit... la mathématique passe sa vie, mais en fait, il parle aussi de sa vie. Et je pense qu'il y a dans cet homme, il y a eu dans cet homme une souffrance pour le fait d'avoir pensé d'une manière obsessive à la mathématique. Parce que je pense que pour arriver à des résultats aussi abstraits, qui portent après des résultats dans la vie communes et concrètes, mais pour arriver à créer des modèles qui sont des abstractions, il y a un effort incroyable.
Qui coupe de la vie ordinaire.
Qui coupe de la vie. Et donc Hardy l'a dit très très bien. Donc, il a essayé même de se suicider à un certain moment pour la tension qu'il a eue dans son parcours de vie.
Cédric Villani a écrit un livre qui s'appelle Théorème vivant, dans lequel il raconte que la démonstration d'un théorème qui lui a pris des mois et même des années l'a conduit dans une forme d'isolement qui l'a inquiété pendant un certain temps.
Oui, et Darwin aussi dans son autobiographie, ça je le prends de l'article que Noro Rakotobe a écrit et analysé, l'autobiographie où Darwin se justifie toujours de ne plus étudier Shakespeare, de ne plus lire les livres qu'il avait aimés, parce que sa tête est dans un autre ordre. Et faire des classifications tout le temps, il l'isole de la lecture des livres qui ont une autre manière de voir la vie. Et donc, il y a presque, il dit, je suis presque empêché de revenir à la littérature que j'ai beaucoup aimée.
De la même façon, on imagine mal Einstein lisant des romans.
Civilized man has a feeling of superiority toward primitive man. He considers himself, so to speak, as a higher being. Does he not live in an ingeniously constructed house instead of a clay hut? Does he not travel by railroad, by automobile, and by steamship? Also, he reads newspapers, has a rather complicated language, and uses the telephone and the radio.
Vous écoutez France Culture, la conversation scientifique par Étienne Klein.
D'ailleurs, à propos d'Einstein, que je citais dans le chapeau, quand on lit l'autobiographie d'Einstein, on voit qu'il ne parle jamais des lieux où il habite, des émotions qu'il a ressenties, il ne parle que de l'histoire de ses idées. Et si on lit son livre, on a l'impression que ce qui se passait dans son cerveau était absolument indépendant de l'endroit physique, dans l'espace-temps, où se trouvait son encéphale. C'est-à-dire qu'il avait une activité intellectuelle qui était inchangée par les mouvements, les déplacements, les voyages qu'il pouvait faire au cours de sa vie. Quand il dit qu'il a une idée, il ne dit pas s'il l'a eu à Prague, à Berlin ou à Bruxelles ou à Princeton. Comme si l'espace-temps ne comptait pas, comme si sa vie se réduisait à ce qui s'est passé dans sa tête, enfin dans son cerveau plus exactement. Est-ce que c'est fréquent dans les autobiographies scientifiques ou est-ce que Einstein est un petit peu singulier de ce point de vue-là ?
Non, je pense. J'ai regardé, j'ai lu les autobiographies des deux femmes. La première est Émilie du Châtelet, cette célèbre mathématicienne.
Qui a traduit Newton.
Qui a traduit les trois livres « Principia Mathematica » de Newton. Et elle a fait un travail incroyable, les calculs, elle a revu avec Clairaut. Et elle écrit un livre de quelques pages, d'une cinquantaine de pages aux éditions d'aujourd'hui. Et là, vraiment, elle reprochait toujours à Voltaire de se dédier aux tragédies. Et Voltaire, à un certain moment, dans une lettre, dit « Elle traite Tacite comme une béguelle qui dit des nouvelles de son quartier. » Donc tellement elle était obsédée par ses études scientifiques. Alors, dans ses discours sur les bonheurs, où elle se raconte, elle valorise assez les bonheurs d'étudier, de se dédier à la science, les bonheurs de l'hasard. Elle jouait.
Du hasard, le bonheur du hasard. Pardon. Les jeux de hasard, c'est ça ?
Oui, elle jouait aux cartes et d'autres, elle jouait de l'argent. Mais alors, cette chose qui n'est pas bonne, évidemment, je me suis demandé si ne l'amenait pas à être dans les présentes continues, c'est-à-dire on défie ce qu'on fait au moment. Quand on joue de cette manière, évidemment, on n'a pas des passés ni des futurs. On joue tout là.
On est dans le présent.
Au présent, on est dans le présent. Et dans ces livres, dans ces livres, elle ne raconte jamais où elle était, où elle pouvait aller. Non, il n'y a pas d'espace ni de temps. Comme vous avez illustré pour...
Toutes les idées se superposent dans
voilà,
un même présent.
Donc, même dans un discours sur le bonheur. Donc, c'était un peu classique à l'époque, écrire ces livres autobiographiques et d'Épicurène sur le bonheur. On devait être au XVIIIe siècle heureux à tout prix.
Mais... Heureux à tout prix. Alors, vous parlez de bonheur, mais je vais vous poser une question stupide. Mais est-ce que lorsqu'on lit les biographies, enfin les autobiographies des scientifiques, on a l'impression qu'en général, ils ont des vies plutôt heureuses ? Est-ce que c'est des choses qu'on peut dire ou est-ce que, au contraire, on sent des personnes tourmentées ? Est-ce que la joie de la découverte rejaillit sur leur bonheur personnel quand il y a des découvertes ou bien est-ce que c'est de la souffrance ?
Là, vraiment, j'ai lu toute l'œuvre autobiographique de Rita Levi-Montalcini. C'est une biologiste qui a eu le prix Nobel pour la médecine. Au départ, elle était médecin. Elle a renoncé à être médecin après la Deuxième Guerre mondiale parce qu'elle a vu mourir des typhus, des gens dans les hôpitaux des Alliés, donc des Américains. Et là, elle a dit non, je ne vais plus voir mourir des gens. Elle était juive de Turin. Elle est partie aux États-Unis et ses départs, qui l'a séparée de sa famille et de sa sœur jumelle, Paola, l'a amenée, je crois, à écrire presque tous les jours ce qu'elle faisait aux États-Unis. Et ces lettres, c'est presque un journal intime, écrit au jour le jour, ces lettres sont toujours heureuses. C'est-à-dire qu'elle décrit l'effort, tous les efforts qu'elle fait pour réussir, pour avancer dans sa recherche. Et parle aussi de l'hasard. Du hasard. C'est la deuxième fois que je fais cette...
Du coup, on comprend.
Du hasard. Et parce qu'elle pense que l'hasard, c'est vraiment à la base de la découverte. Même si un scientifique sait bien que tous les jours travaille 12 heures, 14 heures sur les mêmes sujets, sur les mêmes expérimentations, mais il y a un moment où l'hasard donne des résultats.
C'est pas ce qu'on appelle la sérendipité ?
Oui, mais je me demande si la rigueur n'était pas là, comment on peut découvrir par hasard quelque chose. Je pense qu'on
faut être en état de recherche pour que le hasard soit souriant, non ?
Bien sûr, mais son collègue avec lequel elle a eu les prix Nobel, San Cohen, lui a dit « Attention Rita, nous avons épuisé toute la chance que nous avions, et donc il faut travailler maintenant. » Mais alors j'ai conclu la comparaison entre sur la question si ces scientifiques qui écrivent sont errés ou pas. Donc quand Rita Levi-Montalcini écrit ses lettres, elle est toujours heureuse, énergique, elle regarde toujours en avant, mais quand elle écrit son autobiographie, elle réfléchit sur l'histoire et sur ses amis qui sont des poètes ou des écrivains comme Primo Levi. Et là, elle devient très pessimiste. Donc c'est sur la longue histoire qu'elle pense que l'homme est vraiment un être malheureux, qui souffre. Et je me suis beaucoup interrogée sur le fait d'avoir une énergie pour progresser et aussi un regard qui porte sur les temps longs de l'histoire.
Alors Marie Berne, Jean Painlevé, il était comment ? Il était heureux ? Il était perturbé ?
Mais justement, je parlais avec la directrice des archives hier qui me disait qu'il était très drôle jusqu'à la fin. Donc il avait de l'humour, etc. Évidemment, il avait ses tensions internes en permanence. Et je pense que, à l'inverse d'un scientifique qui doit être en écrivant, Painlevé était quand même les deux. Il a passé sa vie à se dire scientifique quand le directeur de la Cinémathèque
lui a dit qu'à une conférence, lui a changé l'adjectif pour ses films, en disant que ça allait être des films d'avant-garde au lieu de films scientifiques. Il s'est mis dans une rage pas possible.
Alors qu'il aurait pu être flatté.
Il aurait pu être flatté. Il ne voulait surtout pas, finalement, être un artiste, et il ne voulait surtout pas être un scientifique. C'était l'intention des deux, je pense, qui est un peu au cœur de son angoisse.
Alors, j'ai une question à vous poser à toutes les deux, Marie Berne et Béatrice Barbalato, concernant la découverte. Très souvent, on ne comprend pas comment les scientifiques font leurs découvertes, parce qu'ils ont du mal à les raconter. Est-ce que le fait de lire leurs textes, leurs autobiographies, leurs correspondances, aide à comprendre la jeunesse des idées scientifiques? Je pense à Fermi. Fermi n'a pas écrit d'autobiographie, mais sa femme, Laura Fermi, a écrit sa biographie. Et lui-même disait que... par exemple, quand avec son équipe de la Via Panisperna à Rome, ils ont envoyé des neutrons sur de l'uranium. Ils comprenaient pas trop ce qui se passait parce que la cible réagissait plus que attendu. Et ils sont allés manger. Fermi a eu cette phrase célèbre: "Andiamo mangiare", il faut aller manger. Ils sont allés manger. Quand ils sont rentrés du restaurant, il a mis dans le faisceau de neutrons un bloc de paraffine. Et ça a complètement changé la donne. C'était le début, en fait, de la physique nucléaire, parce qu'ils comprenaient que les neutrons ralentis avaient des effets plus importants que les neutrons rapides, sur l'uranium en tout cas. Et il n'a jamais pu expliquer pourquoi il avait fait ça. Comme si son inconscient lui avait dicté un geste presque irrationnel. Est-ce que la lecture des œuvres des scientifiques, des œuvres biographiques des scientifiques, est un moyen, peut-être le seul, de comprendre la genèse des idées scientifiques? Est-ce que vous connaissez des cas où les gens ont raconté de façon très détaillée comment les idées leur sont venues?
Moi, je vais
pour
dire...
Jean Pinlevé, par exemple.
Pour Jean Pinlevé, je vais dire quelque chose qui répond plus ou moins à la question. C'est qu'il il disait toujours que le plus intéressant et la vraie découverte n'était pas sur les films. C'est-à-dire que finalement, il passait des heures à essayer de filmer quelque chose, mais il s'endormait au moment où tout se passait.
Mais la caméra pouvait tourner quand même.
Ben, à l'époque, non, il fallait quand même être là.
Il fallait être là.
Donc ça, c'est le hasard un petit peu dont parlait Béatrice tout à l'heure. En fait, à la fin de sa vie, un des derniers films de Pinlevé était un film de physique, en fait, sur les cristaux liquides. Ce n'est pas une découverte, mais il en parle un petit peu comme une découverte, peut-être on va dire, scientifique et artistique, puisqu'il avait demandé à François de Roubaix, qu'il jugeait être un digne héritier de Maurice Jobert, le compositeur de films de musique, de composer une musique pour lui. Et entre-temps, François de Roubaix, qui était très jeune, est décédé... en plongeant d'ailleurs, en faisant de la plongée sous-marine. Mais il a retrouvé ce morceau, et quand il a retravaillé le montage de son film Les cristaux liquides, qui, si on peut le trouver aujourd'hui sur YouTube, qui est vraiment un film psychédélique, il a eu l'intuition que c'était cette musique-là qui devait aller avec ce film. Et il en parle, et je le cite, comme une coïncidence cosmique.
cosmique, mais c'est pas vraiment une découverte, c'est plutôt le sentiment qu'il a trouvé ce qu'il cherchait. Einstein, dans l'autobiographie que je citais tout à l'heure, il raconte qu'il a eu une idée en 1907, l'idée qu'il juge la plus heureuse de sa vie. Il était assis sur son tabouret au bureau de la propriété intellectuelle à Berne, et il comprend qu'une personne qui est en chute libre ne sent pas son poids. Mmh. Parce que quand on tombe, les objets qui tombent avec nous, le chapeau, le parapluie, la sacoche, tombent à la même vitesse que celui qui tombe. Donc par rapport à lui, les choses ne tombent pas. Donc le fait de tomber annule la cause de la chute. Et c'est ça qui va le mener, quelques années plus tard, à une nouvelle théorie de la gravitation, la relativité générale, il y a exactement un siècle. Mmh. Donc il raconte cette idée, mais il ne raconte pas le processus intellectuel par lequel cette idée est advenue. Et donc il y a toujours une sorte de mystère de la genèse de l'idée. Il y a très peu de scientifiques qui expliquent comment l'idée est apparue. Il y avait évidemment le mythe de l'Eureka, il y a un avant et un après, mais on ne dit pas de façon très détaillée ce qui se passe pendant.
Je voudrais rappeler qu'il y a toute une anecdotique sur les découvertes scientifiques à partir d'Archimède.
Une anecdotique ?
Oui, les gens pensent aux scientifiques comme des personnes qu'à un certain moment découvrent rapidement, font une découverte.
Eureka.
Et donc à partir d'Archimède, Eureka, quand il est en train de se faire un bain, il découvre les rapports entre les poids et la... et les volumes, et il découvre cette loi, mais nous ne savons rien parce qu'Archimède n'a pas écrit, on le sait par les biais d'autres écrivains. Et donc ça veut dire que les gens, quand les gens pensent aux scientifiques, croient toujours qu'il y a comme un miracle qui se vérifie dans leur tête.
Que le cerveau est comme une ampoule qui s'allume tout d'un coup.
Voilà, c'est ça. C'est aussi dans les bandes dessinées, etc. Donc c'est vraiment un savoir de tout le monde, dire un scientifique, c'est comme une ampoule qui s'allume. Par contre, on sait, dans différents exemples, que les scientifiques qui découvrent quelque chose, ils le découvrent à travers l'erreur, en reconnaissant l'erreur de quelqu'un d'autre. Donc là aussi, c'est un élément de l'origine des idées scientifiques très importante. Je dirais qu'en littérature, dans les humanités...
Vous avez des exemples ? Cette idée qu'une découverte scientifique serait la correction d'une erreur faite par d'autres ?
Par exemple, c'est ce que on organisera un autre colloque à Rome sur l'autobiographie. Une section sera dédiée aux scientifiques, à laquelle participera Fabio Cismondi, qui parlera de James Chadwick.
Chadwick. Le découvreur du neutron.
Voilà. Donc, il découvre les neutrons parce qu'il a découvert l'erreur des Curie-Joulon.
Qui en fait ont mal interprété.
Voilà, donc on découvre souvent à travers l'erreur. Je dirais qu'en littérature et dans les humanités, on ne trouve rien de pareil. Aucun écrivain peut dire d'aller en avant parce qu'il a découvert des erreurs.
De Victor Hugo.
Voilà. Voilà. Oui, on peut tout dire, mais ce n'est pas vraiment la même manière.
Un écrivain ne commet pas d'erreur.
Voilà, c'est un monde qui n'a pas d'ancrage à la réalité, même si le mot réalité nous amène à beaucoup de questionnements, et est-ce qu'on peut parler de réalité dans les sciences ou dans les humanités ? Non, il n'y a pas de réalité reconnue comme on pouvait l'avoir Platon, quand on parlait de...
Platon.
Mais
une découverte scientifique, c'est quand même pas à chaque fois que la correction d'une erreur. Il y a aussi des inventions, il y a aussi des créations de nouveaux concepts. Marie-Berne ?
Je crois que Painlevé se reposait vraiment sur le cinéma. C'est le cinéma qui découvrait, parce que c'était des découvertes qu'on ne pouvait pas faire à l'œil nu. Et donc tous ces articles, etc., pour justifier de l'utilité du cinéma dans les sciences, c'était qu'on pouvait faire une découverte en filmant un phénomène scientifique. Donc là, il y a une anecdote sur l'œuf d'Épinoche, le premier film scientifique qu'il a fait et qu'il a présenté à l'Académie des sciences en 1925. C'est qu'il venait juste de commencer à apprendre à monter un film. Il dira après que le film scientifique ne doit justement pas être monté. Il doit être tel quel.
Il doit tout prendre.
Sans son, sans musique, sans rien du tout.
Irregardable.
Et en fait, il fumait à l'époque des cigarettes anglaises. Et un morceau de cigarette, pendant le montage, est tombé sur le film. Et il a monté à l'envers. Donc on voyait la fécondation de l'œuf d'épinoche en sens inverse pendant quelques secondes. Mais il s'en est pas aperçu. Et donc il a passé le film devant le parterre de scientifiques de l'Académie des sciences. Et il y avait effectivement... Il s'en est aperçu à la projection. Et il a rectifié. Personne, heureusement, n'a vraiment noté ce qui se passait. Et il a rectifié à la dernière minute. Mais il explique que toute l'utilité du cinéma dans le milieu scientifique et à l'université aurait été un peu condamnée s'il s'était aperçu qu'effectivement le montage pouvait inverser la découverte.
Se creusent une niche dans la roche friable, où vivent librement sur le fond marin. De couleurs variées, presque sphériques, ils mesurent de 4 à 10 cm de diamètre.
Alors moi j'ai une question aussi, il y a beaucoup de questions autour de cette affaire des autobiographies des scientifiques. À votre avis, si dans l'enseignement des sciences, on mettait davantage en avant la biographie des savants, est-ce que l'image de la science en serait beaucoup modifiée? Est-ce qu'elle serait rehaussée? Ou est-ce qu'au contraire, la science perdrait un petit peu de son prestige parce qu'elle se réduirait à une sorte d'aventure humaine sans que les résultats puissent s'émanciper de la vie de ceux qui les produisent?
Je crois que dans l'intention autobiographique, on en a parlé, c'était une justification mais aussi une communication. Et je crois qu'il y a une intention de la part du scientifique de communiquer à tous plutôt qu'à seulement les scientifiques qui connaissent le phénomène quelque chose à propos de la science dont il parle. Donc il y a un peu une intention de vulgariser la science.
Est-ce que c'est ça la vraie motivation? Par exemple, Einstein avait écrit des livres sur ses théories pour le grand public et après la Deuxième Guerre mondiale, on lui a demandé d'écrire sa biographie. Et il a été très réticent, il a fait en fait un livre qui raconte ses idées plus que sa vie. Qu'est-ce qui pousse c'est un peu ma question du départ, Béatrice Barbalato, qu'est-ce qui pousse un scientifique à raconter sa vie? Parce qu'il a l'impression qu'il doit laisser une trace dans l'histoire qui va au-delà de ses productions scientifiques. Est-ce qu'il a des comptes à rendre? Est-ce qu'il a besoin de comprendre lui-même ce qu'il a fait?
Je crois qu'un scientifique écrit sa vie pour presque tous les aspects qui vous venez de dire. C'est-à-dire, il veut pratiquer un langage qui n'est pas son langage habituel, et quand même c'est le langage de tout le monde. Donc il veut participer à une forme d'universalité dans laquelle quand même il vit, même s'il vit parfois dans l'isolement. Un second aspect... Je regarde la manière de réfléchir, de se donner des instruments de réflexion lui-même, je crois. Parce qu'en écrivant, peut-être qu'il comprend aussi sa manière de travailler. C'est une pratique aussi de travail. Ça peut être une manière pour comprendre la pratique de son travail.
C'est-à-dire, c'est le fait d'écrire qui suscite la réflexion. D'ailleurs, il y a un cas assez célèbre, je crois, c'est... Toujours le même, hein, c'est Einstein en 1907 à qui on demande d'écrire un article de synthèse sur la théorie de la relativité qu'il a élaboré en 1905. Et c'est en écrivant cet article qu'il se rend compte que sa relativité doit pouvoir s'appliquer à la gravitation, ce qu'elle ne fait pas. Et c'est en écrivant cette synthèse que les idées qui vont le conduire à la relativité générale un peu plus tard commencent à germer. Oui. Et donc c'est l'exercice même de l'écriture qui a été producteur d'idées. Si vous
voulez. Voilà, je crois que oui. Pas l'écriture qui est étrangère à ce qu'on fait. Parce que Hardy, par exemple, dans son apologie...
Le mathématicien.
Les mathématiciens affirment qu'il déteste qu'il y a des gens qui expliquent ce que les autres gens font. Donc un mathématicien fait... Il fait des théorèmes, construit des modèles, et il peut parler de ses modèles, mais il déteste ceux qui jugent. Et c'est la même question qui s'est posée Oscar Wilde quand il écrit les critiques comme artiste. Donc un artiste, c'est un critique de lui-même, et ça va, mais un critique qui est critique, qui veut expliquer ce qu'il fait un autre qui travaille concrètement, n'est pas bien. Donc,
C'est-à-dire qu'il ne veut pas déléguer la vulgarisation ? C'est ça qu'on pourrait dire ?
Oui, oui.
Pour éviter
donc
les
je
malentendus.
Suis contre la divulgation, peut-être une très bonne chose, mais il faut être très prudent. Je pense qu'un témoignage, c'est un témoignage. Peut-être aussi qu'on écrit une autobiographie pour se justifier, mais quand même, si on les rattache au travail intellectuel d'un scientifique, on doit les regarder comme un document qui a une importance. Et construire une histoire de ça, ça c'est autre chose peut-être. Parce que dès qu'on a des documents écrits, l'autobiographie ou les journaux d'Einstein, on peut bien les comparer à son travail. Et normalement, c'est quelqu'un, un scientifique aussi, qui s'en occupe. Mais si on commence à parler de l'histoire des scientifiques, là, je ne sais pas quelle pourrait être la retombée de cette divulgation. Comme les gens vont interpréter, est-ce qu'on retombe dans l'anecdotique des scientifiques ? Ça, c'est les dangers, je pense.
Ça veut dire que les scientifiques qui écrivent voudraient rencontrer ou fabriquer une forme d'objectivité, y compris à propos d'eux-mêmes, pas simplement à propos des résultats qu'ils ont découverts ou produits.
Oui.
Ils voudraient objectiver leur parcours de façon à ce qu'ils ne soient pas déformés par des mauvaises interprétations.
J'en reviens à Painlevé.
Toujours.
Qui, en fait, est méconnu aujourd'hui. Et je pense, enfin, j'ai compris en faisant des recherches ces dernières années, qu'il s'est effacé, en fait, des découvertes, etc. Il n'a pas... c'est pour ça qu'on se rappelle du commandant Cousteau, qui se mettait en avant, justement, qui a un peu fait de lui-même un personnage médiatique, un héros dans ses films, etc. Alors que Painlevé, finalement, s'est complètement retiré de ses films. Il ne s'est jamais mis en scène, même si c'est lui qui parle, ça n'a aucune importance. Il a souvent parlé beaucoup plus des techniciens avec qui il a parlé, il a fait les films, des autres scientifiques avec qui il a travaillé, plutôt que de lui-même. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles on a oublié Jean Painlevé, c'est justement parce qu'il a transformé un petit peu tout ce qu'il a fait en quelque chose d'objectif.
Ben c'est sur cette leçon de modestie que nous allons conclure. Merci Béatrice Barbalato, merci Marie Berne d'avoir répondu à notre invitation. C'était La Conversation Scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Catherine Madure, à la technique Théo Gomard et à la réalisation François Connac.
Animaux cuirassés, bêtes étranges ou effrayantes de forme et de mouvement. Vivantes sculptures hiératiques. Terribles ou gracieux, que de légendes inspirées aux poètes ou aux artistes. Maléfices représentés par des razzias méticuleuses et totales.
Tout de suite. c'est-à-dire dans quelques instants, vous retrouvez Projection privée par Michel Simon.